bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grand à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans les pires moments qu'a pu connaître l'Europe au cours des dernières années, un programme communautaire, un seul, a continué à bénéficier d'une image très largement positive. Erasmus, l'intuition la plus géniale qu'ait eue l'Union européenne pour construire son avenir, selon les mots du secrétaire d'État italien en charge des affaires européennes, Sandro Gozi. Erasmus, ou si vous préférez, European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Alors comme vous venez de vous en rendre compte, tout le monde n'a pas eu la chance de bénéficier de ce programme d'échange universitaire, de cette ouverture aux langues étrangères. Mais le bilan est quand même conséquent. En tout juste 30 ans, plus de 3 millions d'étudiants ont effectué un séjour en dehors de leur pays avec ce dispositif. De quoi créer des liens, des compétences, une culture commune pour toute une génération, biberonnée à l'idée que la mobilité, il n'y a que ça de vrai. Et ce n'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui, cette philosophie du mouvement se retrouve dans le discours politique jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mais comment est-elle partagée? Et par qui? Erasmus, la mobilité heureuse? C'est à partir de cette question que nous allons discuter et réfléchir ce soir, en compagnie de Magali Balator. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez publié au PUF en 2010, Erasmus et la mobilité des jeunes européens. Pour discuter avec vous, Rémi Oudguiri, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur adjoint de l'Institut Sociovision. Vous avez notamment publié Petit éloge de la fuite hors du monde, je le précise parce que c'était chez Arléans en 2015, ça vient d'être réédité en poche. Et puis, tout nouvel ouvrage chez une maison d'édition que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, Arquet. Ces adultes qui ne grandiront jamais, petite sociologie des grands enfants. Notre troisième invité est en duplex des studios de France Bleu à Strasbourg. Il s'agit d'Isabelle Maradan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions d'éducation et vous venez vous aussi de publier un ouvrage alors qui est directement en lien avec le 30e anniversaire d'Erasmus, 30e anniversaire qui avait lieu officiellement la semaine dernière. Ils ont fait Erasmus, ouvrage que vous avez coécrit avec Stéphane Dugast et qui consiste notamment, alors qui est publié aux éditions La Martinière et qui consiste notamment en un recueil de témoignages d'étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif. Enfin, d'étudiants et pas seulement, d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler. J'imagine que ça n'a pas été très compliqué, finalement, de trouver des volontaires, des témoignages, parce qu'il y a énormément de jeunes, et notamment de jeunes Français, qui ont bénéficié de ce dispositif. Est-ce qu'on sait à peu près, d'ailleurs, chaque année, combien de Français participent ou bénéficient d'Erasmus, Isabelle Maradan?
Alors on est sur chaque année, ça serait. Je peux vous donner des chiffres globaux, c'est-à-dire que depuis 1987, on sait qu'on a plus de 600 000 étudiants qui ont bénéficié du programme. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas que des étudiants, et c'était d'ailleurs l'un des intérêts de cette enquête. Et il n'y a pas que des jeunes dans le livre, puisqu'on a aussi des enseignants de l'enseignement supérieur notamment, qui témoignent et qui eux ont 54 ans et continuent à bénéficier de ces mobilités.
Voilà, alors c'est un bilan qui est sur aujourd'hui le long terme, hein, puisque je rappelle donc 30 ans d'Erasmus. Une petite question personnelle pour vous trois, est-ce que vous êtes vous des anciens d'Erasmus, Magali Balator?
Ah oui, moi oui, j'en ai fait même plusieurs dans différents pays.
Lesquels?
En Angleterre deux fois et en Italie une fois.
Donc c'est un sujet que vous connaissiez bien déjà de l'intérieur avant d'en faire et votre thèse et un ouvrage.
Tout à fait.
Rémi Oudguiri?
Non, j'ai étudié un peu à l'étranger aux États-Unis, mais pas via Erasmus.
Et vous, Isabelle Maradan?
Eh bien, pas du tout. Moi, j'ai fait mon Erasmus cette année à travers ces 30 personnages et ces 30 récits d'expérience.
Ah ben voilà, c'est une façon effectivement d'entrer dans ce dispositif. Alors, pour ma part, ben, tiens, je vais me mettre aussi dedans. Hein. Moi, je n'ai pas fait non plus Erasmus. Et quand on me parle de ce dispositif, j'imagine comme énormément de monde. Je pense d'abord colocation, je pense jolie fille, je pense beau garçon, la fête, le soleil, Barcelone et évidemment le film de Cédric Clapiche.
What are you studying? Economy.
Ah, economy.
Oh. And what do you expect your life to be in about 5 years?
That's a ridiculous question. You can't ask me that.
We have to know.
I don't know what I'm
going to
be doing.
Listen,
in
this is a very normal question. Yeah? I have a list of questions. If anybody don't like my question, or want to ask another question, then go on.
Seriously, we have to know him or not.
What does it matter?
J'ai tout de suite adoré cet endroit. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il m'accepte ici. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. C'est comme si leurs engueulades...
Voilà, extrait de l'Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Je sais, Magali Balator, c'est un lieu commun que d'utiliser ce film pour parler d'Erasmus. Mais on l'a fait à dessein, on va essayer justement de ne plus être trop dans la caricature dans la suite de cette discussion. Mais est-ce qu'on peut dire en tout cas que c'est un film qui a contribué à la notoriété du dispositif ?
Ah oui, je pense à l'image, du moins l'image positive. Mais bon, moi ce qui me marque toujours dans le film de Cédric Clapiche, c'est qu'on voit rarement les étudiants travailler. On dirait que ce n'est pas un séjour d'études.
Alors justement, j'allais venir, c'est-à-dire, oui, mais je crois même qu'on les voit d'ailleurs jamais à la fac.
À l'université.
Ouais. Est-ce que ça
alors
veut dire que
les résultats de la recherche démontrent le contraire, que c'est un séjour d'études avant tout. C'est-à-dire que les étudiants Erasmus sont plus des étudiants stratèges que bohèmes, on va dire. Donc,
Mais est-ce que c'est quand même pas significatif peut-être, alors justement, d'une intention qui pourrait être celle des étudiants de se dire on va profiter de ce dispositif aussi pour faire des échanges culturels. Et en tout cas, est-ce que c'est un des objectifs qui était assigné au départ, donc en 1987, à Erasmus ?
Oui, alors l'objectif, alors là j'ai entendu parler tout à l'heure la collègue de chiffres. Alors souvent on donne les chiffres absolus, alors c'est plus intéressant de parler en chiffres relatifs, puisque là on peut s'apercevoir justement que ce programme ne touche pas une majorité d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, puisque donc déjà en termes d'objectifs, c'était au départ 10% d'étudiants en mobilité. Aujourd'hui on est passé à 20%, mais on n'a toujours pas atteint ces 10%, donc c'est-à-dire que quand même une large majorité, donc plus de 80% des étudiants, sont encore des étudiants qui ne participent pas à ce dispositif de mobilité. Alors évidemment, ce n'est pas le seul, il y a d'autres dispositifs de mobilité. Il y a aussi la mobilité qu'on appelle spontanée, qui est une mobilité qui n'est pas institutionnalisée. Mais on se rend bien compte qu'en fait, on peut difficilement parler de génération, on peut dire, puisque finalement, et ça touche, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, encore une minorité de personnes. Donc l'objectif, oui, alors les objectifs ont évolué dans le temps. On va dire qu'il y a eu au départ aussi cette volonté, effectivement, de créer un sentiment, disons, d'appartenance à une Europe. Donc là, on va voir aussi qu'à ce niveau-là, c'est pas toujours, l'objectif n'a pas toujours été atteint non plus. Il y a eu effectivement le rendre les citoyens plus mobiles, donc avec aussi un lien qui aujourd'hui est clairement annoncé avec le marché du travail, donc faire se déplacer les personnes là où il y a du travail, etc. Donc
et on va voir justement dans le cadre de cette émission comment ce discours sur la mobilité a pu se diffuser, à qui il a profité. Mais pour rester peut-être sur ces objectifs en termes d'échanges culturels, en termes de création d'une identité européenne, ça, Isabelle Maradan, est-ce que pour les concepteurs de ce programme Erasmus, c'était quelque chose qui était très présent dans leur esprit ?
C'était effectivement l'idée de créer une Europe des citoyens, de travailler une citoyenneté européenne, et puis aussi d'aller vers une Europe de la connaissance, des échanges entre les établissements. Et je crois que effectivement ces expériences de mobilité, comme le disait tout à l'heure Magali Balator, se sont étendues aussi à d'autres profils. On en parlera. Des étudiants se sont ouverts à notamment des personnes plus jeunes, des demandeurs d'emploi, des apprentis, des personnes en lycée professionnel. Donc ce qui était très intéressant lors de cette enquête, c'était effectivement de voir la diversité des profils qui pouvaient bénéficier de ces mobilités.
Rémi Audguéry, j'ai pas précisé en vous présentant tout à l'heure que comme sociologue, vous travaillez en particulier sur les jeunes générations. Est-ce qu'on peut dire que Erasmus et tout ce qu'il y a autour, en tout cas cette idée de que les étudiants doivent bouger, doivent aller voir ce qui se passe ailleurs, notamment en Europe, est-ce qu'on peut parler de forme de marqueur générationnel pour cette jeunesse, justement, même si ça n'a pas bénéficié, si ça ne bénéficie pas à l'ensemble de la jeunesse?
Oui, je pense clairement que oui, par rapport aux générations précédentes, c'est évident. Nous, quand on pose la question aux jeunes, par exemple, parmi les compétences qu'il est important d'avoir aujourd'hui, la première qui sort, ce sont les langues étrangères. Et d'une manière générale, il y a clairement chez beaucoup de jeunes l'envie d'aller à l'étranger, que ce soit, alors, pour ceux qui ont la chance de bénéficier d'un programme universitaire, ça va être le cas, d'aller à l'étranger pour une expérience professionnelle. C'est de plus en plus quelque chose qui attire les jeunes. Ou alors, aller tenter sa chance, puisque depuis quelques années, nous, ce qu'on voit dans nos enquêtes, c'est qu'il y a quand même un pessimisme. Alors, on verra si ça change avec le nouveau cycle politique qui s'ouvre, mais il y avait un pessimisme qui s'était installé sur la facilité de réussir en France, de pouvoir poursuivre et de s'intégrer sur le marché du travail. Et on voyait de plus en plus de jeunes se dire, finalement, si je veux réussir, si je veux faire quelque chose de ma vie, il faut que je parte à l'étranger, que je parte en Angleterre. Il y a le grand rêve de l'Australie qui revient très souvent, ou d'autres pays comme le Canada. Donc on est quand même face à une génération qui a envie d'être mobile, qui a envie d'aller à l'étranger, mais qui n'a pas toujours les moyens de le faire.
Quand vous parlez de compétences et de ce à quoi ça peut servir sur un curriculum vitae, par exemple, est-ce que ce sont avant tout des compétences qui sont le fait de maîtriser des langues étrangères, ou bien est-ce que ça montre aussi, quand on a fait par exemple Erasmus, qu'on est capable de bouger, qu'on est mobile? Et est-ce que ça compte aussi dans le regard des employeurs?
Oui, tout à fait, ça compte de plus en plus. Donc les langues étrangères qui ne sont pas toujours bien maîtrisées, en particulier en France, mais il y a aussi de plus en plus cette idée d'écosystème de compétences qui est en train de naître dans la jeune génération. C'est-à-dire l'idée qu'on acquiert des compétences en dehors des cursus académiques classiques. Et donc, par exemple, un séjour prolongé à l'étranger, on va le faire valoir comme étant une compétence, c'est-à-dire notamment la capacité de s'adapter dans un contexte différent.
Je crois que c'est vous, Magali Balator, qui parlait de compétences migratoires.
Oui, tout à fait. Alors, on peut aussi parler de capital. Je ne suis pas la seule à avoir parlé de capital culturel de type international, si on prend une conception plus large. Et donc, ça, c'est... Enfin, du concept de capital culturel. Donc, ça, c'est évident que ceux qui saisissent ces opportunités de se déplacer ne sont pas, disons, ont des profils spéciaux.
Mais avant, peut-être, si vous permettez, Magali Balator, de parler des profils avant le déplacement, plutôt, qu'est-ce que ça apporte, en tout cas, d'avoir fait ces déplacements, d'avoir fait ces démarches, d'avoir participé au programme Erasmus? Est-ce que ça vous distingue, disons, par exemple, sur le marché du travail?
Oui, alors c'est sûr que c'est pour ça que je parlais d'étudiants stratèges. C'est sûr que c'est un moyen de distinction, surtout dans une université massifiée. Je veux dire, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, c'est une possibilité qui ne s'offre pas à tout le monde. Les environnements ne permettent pas, toutes les universités, tous les départements, toutes les écoles n'ont pas des échanges avec beaucoup d'institutions à l'étranger. Donc ceux qui, effectivement, bénéficient de ces possibilités de séjour disent en général avoir eu une insertion professionnelle plus aisée, etc. Mais alors là, il est toujours difficile de faire la part entre ce qui tient au voyage, au déplacement en soi, et là où il faudrait parler aussi des destinations, parce que toutes les destinations n'ont pas la même rentabilité, entre guillemets, évidemment.
C'est-à-dire c'est plus rentable d'avoir fait son Erasmus, je sais pas moi, mettons à Cambridge, que dans une petite université.
Exactement.
On va pas s'être payé pour fâcher personne.
Voilà, non, exactement. Mais je veux dire, il y a cette question-là des destinations, mais il y a aussi la question du moment. Il y a beaucoup de questions en fait derrière en fait l'insertion professionnelle, et surtout les questions des caractéristiques sociales de cette population, parce que donc là, si on parle moins, on va dire
attendons, n'y allons pas trop vite, si vous voulez bien, Magali Balator, on a encore un petit peu de temps pour en discuter, et parce que je voudrais vraiment qu'on creuse justement ces particularismes de cette population qui va sur ces programmes, parce que ça me semble vraiment au cœur de notre discussion. Mais pour revenir un instant avec vous, Isabelle Maradan, sur ces étudiants stratèges et sur cette idée qu'il y a la possibilité peut-être de valoriser ces expériences, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est revenu dans les très nombreux témoignages que vous avez recueillis pour votre livre ?
Alors oui, effectivement, c'est revenu comme une occasion de vivre une expérience concrète à l'étranger et de la valoriser ensuite dans son parcours. Tous reviennent en mettant en avant les compétences qu'ils ont acquises en termes d'autonomie. Ils parlent d'autonomie, de prise de responsabilité, d'indépendance. Ils estiment aussi s'être frottés à l'autre. Donc, à l'heure où on parle beaucoup de la question de l'adaptabilité, des jeunes qui s'insèrent professionnellement, ce sont des critères qui sont très positif. Mais pour compléter ce que disait Magali Balator tout à l'heure, c'est vrai que on voit que les étudiants Erasmus sont davantage protégés du chômage, ont une meilleure insertion professionnelle, enfin plus rapide, etc., vers des emplois plus stables. Mais il n'y a pas effectivement de lien de cause à effet entre cette mobilité des jeunes et leur meilleure insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'en vrai, ce qui se passe, c'est que les caractéristiques spécifiques de ces étudiants jouent un rôle dans l'insertion. Ça veut dire finalement que ça se décide avant, et que, mais on y reviendra peut-être, que la mobilité n'est pas évidente du tout pour tout le monde et que ça, c'est quelque chose qui est une donnée avant le départ.
Voilà, si ça joue un rôle, en tout cas, c'est peut-être compliqué de savoir de quelle manière c'est totalement déterminant. Je voudrais vous faire écouter un témoignage. On n'a pas d'étudiants ici, enfin vous me le confirmez, vous n'êtes plus les uns et les autres étudiants. Témoignage d'une étudiante, vous auriez pu la rencontrer, Isabelle Maradan, pour votre ouvrage. Elle s'appelle Farah, elle est partie étudier à Rome il y a quelques temps. Elle était l'invitée de Marie Richeux en janvier dernier dans l'émission Les Nouvelles Vagues. Elle explique ce que lui a apporté, justement en termes professionnels, de fait de participer au programme Erasmus.
J'ai eu beaucoup de chance parce que la Sapienza permettait en fait...
Donc l'université.
L'université où j'étais à Rome, exactement, permettait d'avoir 3 mois de cours de langue gratuit. Donc c'était 4 heures par semaine. Ça m'a vraiment permis d'apprendre rapidement l'italien, disons. Et en fait, un an plus tard, j'ai trouvé un stage qui ne concernait pas du tout mon domaine d'études, donc c'est-à-dire en marketing et communication, dans une start-up, parce que justement je parlais plusieurs langues et qu'ils cherchaient quelqu'un en fait pour travailler en italien. Donc ça a petit à petit ouvert des portes, notamment aussi parce que à la suite de mon Erasmus, j'ai appris l'allemand. Et donc pareil, en fait, ça a permis de débloquer beaucoup de situations professionnelles et de trouver des stages, puis ensuite un CDD, etc., etc.
Voilà, extrait de l'émission Les Nouvelles Vagues que vous pouvez retrouver en réécoute très facilement. On a mis le lien sur le site du Grand Amoun, mais sinon vous allez directement sur la page des Nouvelles Vagues. Ça enrichit le CV, Rémi Guéry. Ça permet aussi peut-être de créer des liens, de créer du réseau. Le réseau, c'est quelque chose aussi qui est important aujourd'hui quand on pense la mobilité.
Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises nous disent, quand on embauche un jeune, en fait, on embauche une communauté, un réseau, parce qu'il entre dans l'entreprise avec sa communauté. Et il faut savoir que les jeunes aujourd'hui ont le réflexe de partager beaucoup de choses qu'ils font, leur expérience sur les réseaux sociaux. Et c'est très frappant quand on compare cette génération aux autres générations, c'est un réflexe. Donc quand vous en situation professionnelle, on va échanger, donc ça pose parfois des problèmes de confidentialité puisque beaucoup de l'information peut partir immédiatement, et plus la communauté d'un étudiant est importante, et plus l'information se diffuse à vitesse grand V. Donc c'est vrai que cette culture de la culture co, comme on l'appelle, c'est-à-dire de la communauté, elle est caractéristique et elle est même de plus en plus considérée comme une compétence, parce que pas mal d'entreprises qu'on a interrogées l'année dernière nous ont dit qu'ils recherchaient chez les jeunes notamment cette capacité justement à créer du réseau, à créer du lien, parce que pour eux c'était en quelque sorte naturel.
Et puis parce que peut-être, je ne sais pas, dans le cas d'une entreprise commerciale, si on sait que la personne qu'on va embaucher a des connexions dans d'autres pays à l'étranger, ça peut être utile.
Voilà, tout à fait. Erasmus est un réseau, clairement. Mais ce qui est frappant, c'est que les jeunes se pensent au cœur de plusieurs réseaux. En fait, en réalité, il faut être au cœur de plusieurs réseaux, que ce soit le réseau étudiant, le réseau international, le réseau tel ou tel groupe affinitaire, etc. Et ça devient une compétence. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes le valorisent comme une compétence extra-professionnelle. Et je pense que l'un des grands enjeux des années à venir, c'est de faire reconnaître des choses qui ne sont pas académiques comme valorisantes dans un parcours professionnel.
Alors il y a donc ce que l'on valorise, ce capital que l'on peut valoriser après avoir fait Erasmus, après avoir été en mobilité, mais encore faut-il entrer dans ce dispositif. Et alors là, on en vient justement au profil de ceux qui auront quoi ? Alors le capital économique, le capital social, culturel, Magali Balator, pour être un étudiant mobile, est-ce qu'il faut tout ça? Et est-ce que, à travers l'étude que vous avez menée, on constate que tous les étudiants ne sont pas égaux, disons, devant l'accès à des programmes de type Erasmus?
Oui, ça c'est certain, parce que donc, comme je disais tout à l'heure, tous les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas des échanges avec n'importe quelles autres institutions. Je parle d'affinité sélective par exemple aussi, n'importe quelle institution n'a pas des relations avec n'importe quelle autre dans un pays étranger. Je pense aux écoles de commerce qui sont les grands bénéficiaires, hein, évidemment les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les sciences politiques, hein, les IEP, etc., qui ont beaucoup, beaucoup d'échanges. Les universités en ont beaucoup moins. Et beaucoup moins déjà, les étudiants se retrouvent devant une offre de mobilité qui n'est pas la même suivant l'établissement qu'ils fréquentent. Donc déjà, d'entrée, il y a ce biais-là, évidemment. Alors, quand on regarde les caractéristiques sociales, à moins de, comme certaines études le font, de s'intéresser à du déclaratif, c'est-à-dire, est-ce que vous considérez de milieu populaire, moyen, plus, PCS++, en général, on répond plutôt moyen, voilà. Donc, si on s'intéresse vraiment au niveau d'études des parents et à leur PCS, donc la profession catégorie socio-professionnelle, on s'aperçoit qu'en moyenne, ils sont quand même plus favorisés que la moyenne des étudiants, en tout cas en ce qui concerne les étudiants de l'enseignement supérieur.
Parce que ça coûte cher avant tout, ou il y a d'autres raisons?
Il y a différentes raisons. Hein. Ils ont un passé migratoire riche aussi, en général plus riche. Ils ont un parcours, si ce n'est brillant, au moins, parcours scolaire, si ce n'est brillant, au moins rapide. Donc, ils ont quand même des caractéristiques sociales qui font que... C'est pour ça qu'après, je disais qu'il est difficile de savoir ce qui tient dans l'insertion professionnelle plus aisée, dans des meilleurs salaires, aux meilleures positions sociales, etc., aux caractéristiques sociales de cette population, ou ce qui tient au séjour de mobilité, le fait d'avoir fait un séjour de mobilité.
Isabelle Maradan, je crois que c'est... oui, je crois, je suis même sûr que c'est dans votre livre « Ils ont fait Erasmus », à la fin de l'ouvrage, qui est un petit guide pratique, que j'ai trouvé cette déclaration de Sylvie Guillaume, une des vice-présidentes du Parlement européen, qui, c'est récent, en 2016, listait les principaux défis que le programme Erasmus devait relever. À commencer, écrivez-vous, je pense que c'est vous qui l'avez écrit, par une plus grande inclusion sociale. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que le constat a été fait qu'au bout de 30 ans, ça restait quand même un programme un peu trop élitiste?
Alors, effectivement, enfin, on pourrait le dire comme ça. Effectivement, pour reprendre ce que disait Magali Balator, il y a un autre aspect qui est que, finalement, les étudiants du supérieur qui restent les premiers bénéficiaires en termes de nombre de bénéficiaires, ce sont aussi, puisqu'on est dans un pays où le niveau de diplôme est très corrélé à l'origine sociale, finalement, on a déjà là une inégalité de fait. Ensuite, à côté de ce programme-là qui concerne les étudiants d'Erasmus Mundus, qui est le volet le plus élitiste du programme, qui permet à des étudiants, alors vraiment triés sur le volet, de bénéficier de mobilité en Master 1, Master 2.
Sans lesquels, c'est-à-dire ceux qui font quoi, les grandes écoles ou les filières d'excellence?
Ce sont des étudiants à l'université, mais qui vont effectuer un master conjoint avec d'autres universités, qui peuvent partir 2 ans en mobilité dans 4 pays différents.
Et là, donc ça serait une sorte d'Erasmus Premium, quoi, on pourrait l'appeler comme
ça. Si on veut, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée. En fait, ça va être vraiment, si on veut balayer un peu tout le programme, ça c'est le côté le plus élitiste. Ensuite, ce que disait Sylvie Guillaume, effectivement, c'est qu'il faut l'ouvrir socialement. Alors, on peut dire que le programme est plus ouvert socialement que l'enseignement supérieur lui-même, puisqu'on a 35% des étudiants en mobilité Erasmus qui sont boursiers sur critères sociaux, alors que le pourcentage d'étudiants boursiers au niveau national est de 28%. Il faut aussi rappeler quand même dans les efforts qui ont été faits que le budget de l'Union a été augmenté de 40% pour la période 2013-2020 du programme. Donc ça représente quand même une avancée considérable. Ensuite, les bourses ont été recalculées. On avait des bourses de 260 €. Maintenant, c'est variable en fonction du pays. Il y a aussi les collectivités territoriales qui abondent ces aides. Et puis, une mobilité qui se développe et qui est aussi affirmée par Sylvie Guillaume comme quelque chose qui doit être vraiment une tendance forte dans les années qui viennent, c'est la mobilité des apprentis et des élèves de la formation professionnelle. Parce que effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a une corrélation entre le niveau de diplôme et l'origine sociale. Donc si on veut effectivement être plus inclusif, il faut que les périodes de mobilité soient plus précoces et touchent aussi des jeunes qui ne sont pas forcément orientés et qui ne feront pas forcément d'études supérieures.
Rémi Audguiri, la capacité à se déplacer, à être mobile, c'est quelque chose qui est très déterminé socialement?
Oui, clairement. Il y a 4 types de jeunes aujourd'hui par rapport à cette question de la mobilité. Il y a l'élite qui bénéficie entre autres de programmes Erasmus et c'est une petite élite qui peut facilement se déplacer et qui va avoir une compétence linguistique assez tôt dans son cursus, c'est-à-dire dès le collège parce qu'elle a eu des séjours de linguistique. Après, il y a un second groupe de jeunes qui n'auront pas nécessairement autant de moyens, mais qui vont réussir à avoir une expérience internationale. Vous allez avoir un troisième cercle de jeunes qui aimeraient bien aller faire un peu d'études, mais que par le cursus qu'ils suivent ou leurs moyens financiers, ils vont pas pouvoir le faire. Et éventuellement, certains, les plus courageux, tenteront leur chance en partant juste après leur diplôme dans une ville européenne pour essayer de s'accrocher à une dynamique économique en place. Et puis, vous avez une partie de la jeunesse aujourd'hui qui, elle, est, c'est un peu celle de la France périphérique, c'est la jeunesse invisible qui, elle, n'est pas du tout là-dedans, qui n'a absolument pas les moyens, qui sort d'ailleurs du système assez tôt, et qui n'a absolument pas de compétences linguistiques, et qui voit cette élite, et qu'elle a tendance à amplifier dans ses représentations, comme se coupant. Et nous, ce qu'on voit, parce qu'on a des baromètres sur plusieurs années, on voit deux mouvements qui sont en train de se créer en France depuis quelques années. Un mouvement vers le haut, où il y a une élite globalisée, à l'aise, avec des compétences linguistiques, qui se sent tout à fait à l'aise dans le monde global. Et puis une petite partie, alors qui est plutôt minoritaire dans la jeunesse, mais qui est significative, et qui a plutôt tendance à se replier, à se sentir complètement oublié, décroché, et qui fait quand les abstentions sont fortes, les grands suffrages des partis extrêmes ou nationalistes.
Isabelle Maradan.
Oui, alors pour compléter cette histoire, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve. Moi, j'ai travaillé aussi auparavant dans une confédération d'éducation populaire où on attribuait des bourses pour le départ en colo des enfants et des jeunes. Alors, vous allez me dire, c'est loin d'Erasmus, mais en même temps, pas tant que ça. Puisque, en s'intéressant à cette question, on voyait qu'il ne suffisait pas de lever le frein financier pour que le départ ait lieu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre de freins psychologiques, culturels au départ. Ces freins, on les observe aussi, et ça, c'est plus de mon expérience de journaliste éducation, lorsqu'il s'agit de s'orienter. Pour certains, on va choisir le bac professionnel ou la formation qui se trouve la plus proche de son domicile pour ne pas aller en ville ou encore pire, ne pas aller dans une autre ville. Donc on voit bien que la question de la mobilité, pour certains, ça fait partie un peu de l'ADN de la famille. Et pour d'autres, selon les milieux sociaux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Et j'ajouterais juste que quand même, il y a un autre volet du programme qui est le volet jeunesse et sport. On connaît le service volontaire européen. Mmh. On a dans le livre interviewé pas mal de jeunes pour qui ce SVE a permis de partir, puisqu'on peut partir entre 17 et 30 ans sans condition de diplôme. Et pour certains, dans le livre, ils nous disent que c'est véritablement un Erasmus de la deuxième chance.
Puisque j'ai la chance d'avoir deux sociologues en studio, je vais en citer un troisième, Bertrand Réau, qui a écrit aussi sur les questions de mobilité, et qui dit notamment ceci, le voyage est une pratique élitiste ancienne, il fait partie intégrante du mode de vie des élites. Est-ce qu'on peut quand même dire, justement, Magali Balator, que Erasmus, sans régler la question des inégalités sociales, bien sûr, mais en tout cas a au moins permis de démocratiser un peu ces questions de mobilité.
Bon, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de réelle démocratisation ni de massification, parce que ça voudrait dire qu'il y a une majorité de personnes qui bénéficient justement de ce type de mobilité.
Certainement, est-ce que c'est mieux, disons, depuis qu'il y a Erasmus,
oui,
par
alors,
rapport à ce que c'était
avant ? Par rapport à la mobilité spontanée, si on parle des mobilités qui ne sont pas encadrées, ou ça permet certainement, comme disait ma collègue, à des boursiers qui n'auraient peut-être pas été à l'étranger s'ils n'avaient pas pu bénéficier de bourses. Mais même en ce qui concerne les boursiers, il faut savoir qu'une partie des bourses sont allouées au retour de la fiche dans le pays d'origine. C'est-à-dire que souvent les étudiants doivent faire l'avance d'un certain nombre de frais occasionnés par le séjour. Donc effectivement, il y a des freins qui sont d'ordre culturel, etc. Mais il y a aussi des freins d'ordre économique en fonction de là où on va. Souvent, les parents font l'avance des frais occasionnés par le séjour. Donc il y a quand même, on va dire, du moins en ce qui concerne l'enseignement supérieur que j'ai étudié plus particulièrement, après il y a tous les autres programmes qui existaient déjà, mais qui sont devenus aujourd'hui Erasmus, enfin qui sont sous le chapeau Erasmus+, aujourd'hui. Disons que pour les étudiants, en tout cas, on voit que clairement que la question économique joue.
Alors ce chapeau Erasmus que vous évoquez, c'est vrai que c'est un chapeau qui est large. Isabelle Maradan, parlez-nous par exemple de Clémence. C'est une jeune femme qui est partie en Irlande du Nord dans le cadre, pas exclusivement on va dire, du programme Erasmus, mais on pourrait appeler ça un programme Erasmus Pôle emploi.
Alors oui, c'est effectivement, ça rentre dans le programme Erasmus+, c'est-à-dire qui recoupe tous les programmes de mobilité européenne. Clémence Langeval, elle était demandeuse d'emploi. Elle avait déjà eu une petite expérience à l'étranger lorsqu'elle était en bac professionnel secrétariat. Donc quand on parlait tout à l'heure de la mobilité qui va s'apprendre ou qui va finalement être occasionnée parfois par une mobilité au sein de l'école, c'est très important. Donc elle, après un BTS d'assistante de gestion PMI-PME, elle est partie 3 mois à Derry. C'est le service international Pôle emploi qui lui a proposé ce stage. Elle était anglophone, elle parlait, mais elle voulait améliorer son niveau en anglais, clairement. Et puis surtout, elle était dans une période de sa vie où elle ne savait pas trop ce qu'elle allait faire et elle ne voyait pas bien d'issue. Donc ça a été pour elle une occasion de reprendre confiance en elle et de se finalement se projeter dans quelque chose qu'elle imaginait comme quelque chose d'un peu élitiste et qui ne lui était pas accessible. Et en le vivant, elle a repris confiance en elle. Alors, c'est pas miraculeux, hein. Il n'est pas question de dire que tous les demandeurs d'emploi qui bénéficient de ce dispositif retrouvent un emploi, mais clairement, elle a vécu une expérience importante et repris confiance.
Et du coup, je pose la question et à Rémi Oudguiri et à Magali Balator. Est-ce qu'on pourrait dire que la mobilité géographique, ça peut aussi favoriser la mobilité sociale, Rémi Oudguiri?
Oui, clairement, et je pense que parmi les compétences qui sont attendues aujourd'hui, il y a la demande de mobilité. Et il est évident qu'avoir, s'être confronté à d'autres cultures, à d'autres habitudes, à d'autres façons de voir le monde, ça apporte un regard différent et qui est plutôt apprécié ensuite dans le cadre professionnel. On entre quand même dans une société, sur un marché du travail, où il y a quand même... Moi, ce qui me frappe dans cette génération, c'est qu'elle ne se projette pas très loin en avant dans le futur. C'est-à-dire qu'elle a conscience que d'ici 5 ans, les compétences qu'elle a acquises à l'université eh bien, vont être probablement périmées et que dans 10 ans, ils auront peut-être changé complètement de métier. Ça, c'est totalement intégré. Et donc, évidemment, une expérience de mobilité, c'est une façon de se préparer à un monde où, au fond, on passe d'une vie en mode carrière, c'est-à-dire il y a des étapes, à une vie en mode projet, c'est-à-dire qu'on est sur des projets et après chaque projet, on va vers un autre projet. Et ça, c'est vraiment typique de cette génération.
Magali Balator.
Oui, alors évidemment, la mobilité engendre la mobilité. C'est un intérêt bien compris de nos hommes et femmes politiques hein, qui veulent faire advenir justement une génération mobile, mais flexible aussi, hein, on peut dire quelquefois précaire. Parce que donc aujourd'hui, ça n'épargne plus la précarité et les formes de précarité n'épargnent plus aussi les diplômés, même si ils sont protégés, comme disait ma collègue avant, davantage du chômage de par leur niveau d'études. Mais donc là, c'est intéressant de voir justement au-delà du séjour Erasmus, les trajectoires donc d'insertion professionnelle de ces jeunes. Et là, en fonction de là où on vient, de la destination, etc., on n'a pas du tout les mêmes non plus, les mêmes, disons, itinéraires en Europe. Et alors, il y a des gens qui sont très satisfaits, qui arrivent à s'insérer sur le marché de l'emploi dans leur pays d'origine, etc. Et puis, il y a des jeunes qui sont obligés, finalement, de continuer leur parcours de mobilité jusqu'à arriver à un niveau où la satisfaction n'est plus, disons, la même qu'au départ, puisqu'ils ont l'impression, finalement, de ne jamais arriver à se stabiliser quelque part. Et donc, on trouve ça, hein, donc quand on étudie les parcours des Erasmus 4, 5 ans, 6 ans après leur séjour, on trouve, évidemment, des personnes installées avec des bons postes dans leur pays d'origine. On trouve aussi des personnes qui sont obligées, finalement, de partir en fonction. Là, on parle par exemple d'étudiants d'Europe de l'Est ou de l'Europe du Sud.
Voilà, la Grèce, l'Espagne, voilà, avec une fuite des cerveaux.
Appeler une fuite qui n'est plus. Parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt de circulation, mais effectivement, la circulation.
Là, on est dans des mobilités contraintes, voilà, en tout cas. C'est de se dire, il n'y a pas d'avenir dans le pays, donc il faut bien qu'on aille chercher ailleurs.
Exactement. Et donc là, il y a aussi pareil, donc, ça se heurte aussi à d'autres dimensions, parce que la dimension professionnelle n'est pas la seule dans la vie d'une individu, il y a des dimensions familiales, etc. Donc les satisfactions, elles sont souvent liées aux tensions qui peuvent exister entre cette volonté de s'insérer, d'avoir un emploi à la hauteur de ses qualifications et cette volonté aussi de s'installer, de faire couple, de faire famille, etc. Quand on est à plusieurs expériences de mobilité, on voit que l'enthousiasme faiblit quand même beaucoup.
Rémi Oudguiri.
Oui, enfin, je nuancerai un peu. Qu'il y ait une précarité, c'est évident, et elle est parfois plus longue pour certains que dans le passé. Mais moi, ce qu'on voit et ce qu'on observe quand même chez une partie de la jeunesse, en tout cas, c'est qu'il y a depuis quelques années l'envie, justement parce qu'il n'y a plus cette projection à long terme, parce qu'ils ont fait finalement une croix sur l'idée d'une carrière linéaire, stable, avec des étapes clairement définies. Il y a l'envie aussi d'aller vers des aventures, et l'idée de mobilité, elle séduit quand même. Nous, dans nos baromètres, elle a plutôt tendance à monter. Alors, elle n'est pas majoritaire, mais les gens ont envie de faire des choses, d'aller essayer des choses. Par exemple, l'idée de start-up, aujourd'hui, c'est pas seulement une mode. Je pense que ça correspond beaucoup à une idée de liberté, même s'il y a parfois une phase d'ombre dans les start-up, c'est évident. Mais il y a aussi l'envie de tenter l'aventure, de créer quelque chose de nouveau. Et si ça rate, ben on passera à autre chose. Il y a quand même cette mentalité qui s'est beaucoup développée ces dernières années.
Vous parlez de start-up, vous parlez de mode projet. Ça me fait forcément penser à quelqu'un qui se trouve en ce moment normalement à l'Élysée et dont on va peut-être connaître d'ailleurs les décisions en matière de remaniement du gouvernement. C'est Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, vous considérez que... Alors, je ne crois pas qu'il est... qui soit passé par le dispositif Erasmus, mais pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'il est représentatif, finalement, de cette génération qu'incarne Erasmus, c'est-à-dire cette idée de mobilité
Moi, je pense Oui, je pense qu'il incarne clairement cette idée de mobilité. Il essaie de, justement de rendre la société plus mobile. C'est son programme à lui. Il essaie de décloisonner, il essaie de casser les codes traditionnels, il essaie de réintroduire de la liberté, de la souplesse dans le système économique. Enfin, c'est ce qu'il va tenter de faire. Et clairement, une partie de la jeunesse se reconnaît en lui. Alors, il ne faudrait pas d'ailleurs limiter cela à la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent dans ce programme d'ouverture, de liberté, de mobilité. Mais il est évident aussi qu'une partie de la société ne s'y retrouve pas du tout et a plutôt tendance à penser qu'elle va être écartée dans les années qui viennent et qu'elle n'est pas faite pour la mobilité. C'est un grand débat actuellement en Grande-Bretagne suite au Brexit. Il y a tout un débat sur les mobiles et les pas mobiles.
Cette question, elle a été posée à Sandro Gozzi qui fait la préface du livre d'Isabelle Maradon. Donc je rappelle, secrétaire d'État italien chargé des affaires européennes. Elle lui a été posée dans le magazine Le Point et il répond donc, est-ce que Macron est représentatif de la génération Erasmus? Il dit absolument. Il représente une génération spontanément européenne parce qu'elle a vécu dans sa peau les aspects positifs de l'Europe. Être citoyen dans tout l'espace de l'Union avec les mêmes droits partout, avoir plusieurs choix dans les parcours universitaires. Mais c'était les aspects positifs voilà, de l'Europe. Magali Balator.
Moi, je vais citer un autre sociologue, puisqu'on cite des sociologues en ce moment, allemand, donc Ulrich Beck, qui dit, dans un ouvrage qui est paru en 2001, « Le marché du travail exige la mobilité sans tenir compte des situations personnelles, le couple et la famille exigent le contraire. » Donc le sujet du marché est l'individu seul, débarrassé de tout handicap, entre guillemets, relationnel, conjugal ou familial. Donc après, vous faites un rapprochement, si vous voulez, avec des personnes qui peuvent incarner très bien cette citation. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut sortir de la question comme si la mobilité pouvait être une norme, alors que la norme en ce moment, c'est l'immobilisme quand même. Donc, je veux dire, ça bénéficie effectivement... Emmanuel Macron n'a pas le parcours de n'importe quel individu, de n'importe quelle origine sociale en France. Donc c'est quand même, je dirais que ça projette en fait sur le grand nombre, sur le plus grand nombre, cet impératif d'être mobile, une caractéristique de l'élite. Et donc ça pose des questions sur que fait-on justement de toutes les personnes qui ont ni les ressources, ni la possibilité, en fait, puisque bon, on sait très bien que le système scolaire est élitiste et que le mérite est en fait de partout une affaire d'environnement social. Donc voilà, donc on peut se poser la question de ceux qui ne justement ne peuvent pas bénéficier pour différentes raisons de ces possibilités-là, leur avenir dans notre Europe.
Et d'ailleurs, quand on parle de mobilité, hein, tout dépend aussi de ce qu'on met derrière. Là, on parle beaucoup, évidemment, à travers Erasmus de mobilité étudiante, mais on pourrait aussi évoquer les travailleurs détachés, les migrations de manière un peu plus large. Et on voit bien que là, du coup, on ne pense plus à la mobilité de la même manière. Un dernier mot, Isabelle Maradon, pour rester sur Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, et lorsqu'il était encore ministre de l'Économie et des Finances, qui était pour une généralisation de ce dispositif d'Erasmus, tous les étudiants pourraient en bénéficier de 6 mois à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semblerait pertinent?
Alors, au-delà des étudiants, ce qui me semblerait pertinent, et c'est ce que pointent en général les personnes qui travaillent sur ce dossier au niveau de la commission, c'est vraiment l'extension du dispositif à des profils différents, pour exactement éviter ce que vient de dire Magali Balator à nombreuses reprises, c'est-à-dire l'exclusion d'un certain nombre de gens du dispositif. C'est vers ça que tend le programme Erasmus+, dans toute sa dimension, c'est-à-dire avec le volet jeunesse et sport dont je parlais tout à l'heure, et aussi avec des mobilités qui devraient s'étendre au niveau du collège. Évidemment, si pendant la scolarité obligatoire, on a l'occasion de partir et d'effectuer une mobilité, ça change le rapport à la mobilité par l'école. Il y a aussi dans le livre une enseignante de lycée professionnel qui emmène ses élèves, du lycée Louis Blériot de Trappes, Et voilà, typiquement, lisez ce portrait, vous allez voir que la mobilité peut être amenée à des gens qui ne pensent même pas que c'est pour eux.
Et bien, on va le faire en lisant donc Ils ont fait Erasmus, livre que vous avez co-signé Isabelle Maradan aux éditions de La Martinière. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle que vous étiez en duplex des studios de France Bleu à Strasbourg. Merci Magali Balator, merci Rémi Oudguiri. Je rappelle Ces adultes qui ne grandiront jamais. Vous venez de le publier aux éditions Arkay. Magali Balator, Erasmus et la mobilité des jeunes européens. C'était au PUF en 2010. Peut-être que ça méritera pour, je sais pas, les 40 ans de refaire une petite étude sur le sujet. Merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Fanny Richet, Sarah Petit, bon Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Lise-Marie Barret avec à la prise de son Yanis Djoudad. Demain, les multinationales doivent-elles se mêler de politique? Ce sera notre sujet de discussion.